Voilà, c'est Nelly de Nantes. Bah, je viens d'écouter l'émission avec la jeune étudiante là qui a parlé. J'ai trouvé ça vraiment super émouvant. Ça me donne envie, je suis fonctionnaire à la poste, ça me donne envie d'être dans la manif le 20. J'espère qu'on sera nombreux, qu'on fera bouger les choses et puis que le petit Nicolas, il va aller voir ailleurs ce qui se passe parce que voilà, ça commence à bien faire. Et puis, bon, encore chapeau à tous ces étudiants qui sont là dans les manifs. Ça fait chaud au cœur. Et puis voilà, donc tous au 20, rendez-vous dans la rue. Et puis, j'espère que ça bouge un petit peu. Voilà. Et merci encore pour l'émission. C'était vraiment super.
Oui, bonjour Daniel, bonjour à toute l'équipe, c'est Thierry, là, un gréviste d'EDF, GDF à Sarlat, en Périgord. Ce matin, nous sommes intervenus à l'occasion de l'émission qui se passait en direct, Le Fou du Roi, là, animé par Stéphane Brun. Nous avons été contraints de couper le courant pour les raisons suivantes. Nous avons interpellé les responsables de l'émission afin de pouvoir exprimer les motivations des grévistes d'EDF et GDF concernant les régimes spéciaux de retraite, et nous avions eu l'accord vers 11h moins le quart pour que on puisse avoir une expression, alors une expression très courte, tu t'en doutes, de quelques dizaines de secondes. Quand nous sommes revenus vers midi moins 10 pour pouvoir intervenir juste après le journal de 12h, changement de programme puisque la direction de Radio France avait mis son veto. Il était hors de question que l'on intervienne, donc les raisons, c'est toujours les mêmes, c'est France Inter, si nous on s'exprime comme ça, d'autres donner des idées à d'autres, donc il est hors de question que les grévistes s'expriment. Voilà, et puis surtout que nous on n'a rien à vendre, on n'a que notre régime spécial à défendre. Donc voilà. Nous avons été, après des discussions qui ont duré plusieurs minutes, on s'est heurté à une fin de non-recevoir. Donc nous avons coupé le courant comme l'Assemblée Générale l'avait décidé le matin même. Voilà, ce que je tiens à dire au nom de tous les collègues en grève, c'est qu'on a été contraint de le faire, on ne voulait absolument pas le faire, mais que la position de la direction de Radio France nous a contraint à intervenir. Alors là, nous avons coupé le temps que nous aurions dû intervenir, c'est-à-dire à peu près un peu plus d'une minute, quoi. Ce que nous voulions dire, je vais te le lire. Contrairement à ce que dit le gouvernement, les agents EDF-GDF sont toujours en grève et notamment en Périgord. Les agents EDF demandent que le président de la République respecte ses engagements de ministre qu'il était le 29 avril 2004 lorsqu'il disait à l'occasion de sa visite à la centrale de Chinon au sujet du régime des retraites. Je prends l'engagement devant vous qui ne sera modifié sur rien. Hein, il parle bien entendu du régime des retraites et des électriciens et gaziers. Je veux que vous sachiez que je suis de bonne foi. On verra si ce que j'ai dit, c'était une blague ou si c'était vrai. Bon, on se rend compte tous que c'est une blague, c'est une blague qui a des conséquences bien plus dramatiques que ce qu'on aurait pu imaginer, puisque ça met quand même des centaines de milliers de gens dans la rue. Voilà, et bien écoute, heureusement qu'il y a une émission comme la tienne qui permet à des gens comme nous de pouvoir s'exprimer, puisque le service public, s'il est ouvert à des marchands, à tous ceux qui des choses à vendre, et en tout cas il est complètement fermé à ceux qui défendent des intérêts collectifs, et voilà, donc merci encore et puis à très bientôt. Et en tout cas, nous en Périgord, sache qu'on t'écoute et on est des fidèles de ton émission, même si elle a été décalée à 15h. Allez, salut.
Bonjour Philippe. Dans un monde réellement retourné, le faux est un instant du vrai, disait Debord. Donc ce serait peut-être bien, je vais penser aussi à réfléchir à comment une fausse manifestation soutenant la droite, elle est dans la pensée unique, elle est dans le système. Peut-être aussi se penser un petit peu sur ce qu'on fait des groupes comme les groupes Jalon, dans lesquels il y avait Bassule Decor, Carl Zéro, qui hurlait dans les manifs en 86, au Chili comme ailleurs, faisions les travailleurs. Il faudrait peut-être se demander un petit peu comment ce genre de fausses manifs, elles sont pas un peu confusionnistes, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de nuance entre la gauche et la droite. Et puis surtout, à un moment, alors qu'on nous bassine un petit peu quand même dans la basse, j'y suis, avec des cours d'autodéfense intellectuelle avec notre cher Chomsky, se mettre un petit peu au boulot, c'est-à-dire se poser la question de comment fonctionne la provocation, peut-être arrêter de se dire qu'elle doit être frontale, et puis inventer des guérillas, plutôt des guérillas où on n'attaque jamais frontalement l'adversaire, parce qu'il est toujours plus fort que nous, donc il faut le miner de l'intérieur, il faut pas, c'est fini de se mettre face à les CRS, et de leur mettre une glace pour qu'ils se voient, le capitalisme ne se voit pas, il ne se regarde pas. Et c'est pas parce qu'on va le dénoncer en l'outrant que ça va changer quelque chose. Donc à un moment, eh ben, réfléchir un petit peu et puis peut-être se plonger dans les archives, notamment dans tout ce qu'a édité le groupe Jalon, Le Monstre, L'Aberration, Le Loup-Garou. Voilà, si vous avez besoin de ce genre d'archives, moi j'en ai, si ça peut vous intéresser.
Au Chili comme ailleurs, fusillons les travailleurs, criait le groupe Jalon en 1986. Cet auditeur nous le rappelle. Eh bien, hier, dimanche, dans les rues de Paris, on entendait syndicat KK. Et on y était, avec le micro de la basse qui suit, et Renaud Lambert tenant ce micro. C'est dans cette manif qu'on va se balader aujourd'hui, pas seulement, vous vous en doutez, dans cette manif, mais dans cette ambiance que nous vivons actuellement, de gauche, de droite, libérale, antilibérale, autour de des thèmes que vous connaissez, que nous vivons tous, puisque c'est dans notre vie quotidienne, évidemment, que ce conflit social campe, si on peut dire, et nous fait dire beaucoup de choses, et en espérer certaines et en désespérer certains. Aujourd'hui, donc, gréviste et anti-gréviste dans la basse j'y suis, tant il est vrai que dans grève il y a rêve, que dans grève il y a autre chose que la grève, autre chose que les revendications salariales ou la simple défense du bifteck. Il y a l'histoire dont nous sommes porteurs, nous autres Français, et elle ne s'abolit pas comme ça d'un simple claquement de doigts au nom d'un consensus qui serait indispensable. Il y a des luttes anciennes qui structurent notre histoire, qui structurent notre pays, des luttes qui ont produit des lois. C'est pas les lois qui produisent les luttes, c'est le contraire, c'est les luttes sociales qui ont produit des lois. Et on va voir comment on peut différencier deux mots. C'est l'égalité et légitimité. C'est notre thème d'aujourd'hui. Et on y va.
Dites aux grévistes qu'on en a marre, on veut travailler et j'en ai marre de marcher.
Vous nous avez pas beaucoup prévenus de cette contre-manifestation.
Nous les médias.
C'est une honte, monsieur.
Fillon tient bon.
Comment?
Qu'est-ce qu'elle a écrit, la dame, là-bas?
Elle a écrit simplement Fillon tient bon, gréviste terroriste, et je sais pas, je suis draillé au boulot.
Vous avez un foulard rouge, monsieur.
Et pourquoi vous en avez un bleu?
Eh bien, parce que moi, j'aime pas le rouge comme ça, par un drapeau, monsieur. Voilà. Moi, je suis pour qu'on débloque la situation.
Au boulot, cheminot.
Les problèmes se règlent pas dans la rue. Mais par contre, il faut être dans la rue, souvent pour se faire savoir qu'ils ne se règlent pas dans la rue.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Renaud Lambert. Là-bas, si j'y suis, syndicat caca.
Flight number 2, arriving from...
Ras-le-bas de la grève, tous les avantages en détail de ce qui vous oblige à marcher. Donc ça, c'est les explications de tous les avantages qu'ils ont, que vous n'avez pas.
Et pas de droit de grève du tout, plus personne ne pourra rien faire.
Non, c'est un peu abusif de bloquer les gens qui veulent aller bosser bien pour des avantages bien supérieurs.
Il y a d'autres choses bien plus abusives que ça, je pense.
Et là, s'il y en a d'autres, mais chaque chose en son temps. Ras-le-bas de la grève, voilà. Merci. Ras-le-bas de la grève, tous les avantages en détail de ce qui vous oblige à marcher.
Comment ils réagissent les gens à votre acte?
Ah ben plutôt bien, bon il y a quelques-uns qui sont pour les grévistes, ça peut toujours arriver, hein. Mais globalement, dès qu'ils ont compris qu'on tractait non pas pour mais contre, il y a un large sourire, donc on continue et donc on est plusieurs associations à se mobiliser pour... des raisons diverses, des associations d'usagers, des associations comme nous qui défendons les contribuables, parce que les syndicalistes profitent de l'argent public, les entreprises publiques sont financées en partie pour nos impôts, et avec tout ça, ils nous bloquent et ils empêchent d'aller travailler, ceux qui les payent finalement.
il faut pas que on cède d'un pouce, parce que si chaque fois qu'on se met en grève, on gagne, il y a pas de raison que ça continue pas. Donc, je ne sais pas ce que fera le gouvernement, c'est pas nous, mais il faut que la grève s'arrête, il faut que les gens qui veulent y aller travailler, aillent travailler. C'est une prise d'otage absolument scandaleuse.
En fait, c'est contre les privilèges que vous tractez.
Absolument. Les privilèges de quelques-uns payés par les autres.
Et le paquet fiscal, le cadeau de 15 milliards d'euros fait aux contribuables les plus aisés, vous avez
tracté contre ça? C'est jamais c'est pas un cadeau. Quand on ne prend pas l'argent des gens qui l'ont gagné, on leur fait pas de cadeau, on les vole pas. Je dirais plutôt ça comme ça. Parce qu'il faut savoir quand même, on parle toujours des riches, mais c'est les plus modestes qui souffrent le plus des excès de dépenses publiques, des gaspillages qui sont payés par des
prélèvements. Justement, c'est les plus riches qui ont bénéficié du plus généreux cadeau récemment.
C'est pas un cadeau, je veux dire. On a essayé pour que les gens qui ont de l'argent, on l'investisse en France et se tire pas à l'étranger. Ils ont essayé modestement, moyennant quoi, si quelques personnes qui se répartissent autrement créaient des emplois à l'étranger restent en France, ça nous réjouira plutôt. Mais ce qu'il faut faire, c'est baisser les dépenses publiques. On prend beaucoup trop d'argent aux gens qui le gagnent et on le gaspille souvent.
Mais si on enlève les régimes spéciaux des cheminots, peut-être qu'ils vont partir à l'étranger aussi.
Écoutez, qu'ils partent, ils verront comment ils seront payés ailleurs. Ça me gêne pas du tout que les cheminots français
partent. Mais les gens qui ont plus d'argent, eux, il faut qu'ils restent.
Vous êtes qui?
France Inter.
À force de dire des choses horribles, les choses horribles finissent par arriver. Vous vous souvenez? Cette réplique d'un drôle de drame. Ben, c'était un drôle de drame. Hier, entre la République et la Nation, cette manifestation anti-grève. Ah oui, ceux qui disent que la rue, c'est pas la rue qui gouverne, ben, sont descendus hier, ce dimanche, dans la rue. Et nous, on s'est fait avoir, il faut bien dire la vérité. On vous avait présenté en juin une heure sur une fausse manif de droite, bien évidemment. Mais il faut bien reconnaître que c'était si bien fait que un certain nombre d'entre vous se sont fait avoir et puis l'ont reconnu. Il y avait ceux qui s'étaient fait avoir, ceux qui se demandaient si c'était du lard ou du cochon, et d'autres qui ont bien rigolé. On l'a rediffusé ces jours derniers et à nouveau ça a remarché, exactement les mêmes résultats. Ceux qui ont cru, ceux qui ont, enfin vous avez entendu vos propres échos dans le répondeur de la Bastille. Mais on ne pensait pas si bien dire, car dimanche, eh ben c'était la manif de droite, c'était pas la fausse manif de droite, c'était une vraie manif de droite. Alors je vous connais, vous allez dire ah non, vous n'allez pas nous avoir encore un coup, et vous allez rigoler d'un bout à l'autre. C'est pas sûr que vous rigoliez d'un bout à l'autre. Par moment, mais pas tout le temps. Et ça va donner raison, en tout cas, à cet auditeur qui, citant de bord, rappelait « Le faux est un instant du vrai ». C'est jusqu'à 16h. C'est là-bas si j'y suis, France Inter.
La semaine, on touche un bon salaire et aussi le week-end. On n'a pas à s'en faire, pour nous pas de problème. Assimilé fonctionnaire dès que l'on est titulaire et traîne. Primé augmentation le mois 13e. On gonfle au fil des saisons pour nous sans gêne. Avantage en nature, alors tout le monde en voiture. On n'a pas de concurrence, SNCF. On est les rois de la France, vos vacances, t'avais qu'à prendre l'avion, pas de chance, on pose nos conditions, SNCF, on a toujours raison, SNCF, on fait pas de concession, on nous prend pour des cons, la revendication c'est bon.
Je suis venu pour tracter, en fait, j'ai
Notre stock est ici, pour Liberté Chérie, c'est ça?
Voilà.
Notre stock est ici, puis vous voyez ici Julien qui pourra vous donner toute information complémentaire. Nous trouvons en face de la gare Saint-Lazare, et nous sommes en train de distribuer des tracts contre la grève, notamment la grève dans les transports. de façon générale, on va dire, contre les grèves qui prennent en otage les usagers à travers les monopoles, notamment les monopoles de services publics. Aujourd'hui, un certain nombre de services comme les transports en commun sont encore sous le coup de monopoles historiques.
Ça, c'est depuis 1945.
Alors, depuis 1945, effectivement, dans bien des cas, c'est la date historique où les monopoles ont été lancés dans la foulée de la Seconde Guerre mondiale, libération et sous l'influence des communistes, et pas simplement des communistes français, également de Staline et des menaces de guerre civile qui planaient sur le pays. Évidemment, les syndicats, et notamment le syndicat communiste, la CGT, ont utilisé ce levier pour obtenir tant et plus avantages sur le dos du contribuable, sur le dos des usagers, sur les dos des autres salariés. Et donc on a vu, entre autres, des régimes de retraite spéciaux apparaître. Donc on voit bien effectivement le poids des syndicats enracinés dans les monopoles publics et qui utilisent ce levier pour obtenir des avantages contre les usagers, contre le public.
Libérez la liberté, libérez la liberté, grévistes fascistes, grévistes fascistes.
Et oui, on a entendu ça hier à Paris, et le 13 novembre, il y a quelques jours, Gare Saint-Lazare, une association intitulée Liberté Chérie et Contribuables Associés, eh bien, distribuait des tracts. Le 14 novembre, manifestation, vous vous en souvenez, des salariés de la RATP s'exprimaient au micro de là-bas, si j'y suis.
Pourquoi, si on avait un peu d'honnêteté, si les gens étaient un tant soit pas un peu impliqués et ouvraient les yeux, pourquoi on va pas chercher l'argent où il y en a réellement dans toutes ces grandes sociétés, ces multinationales qui continuent à faire des rentrées d'argent énormes, qui sont incroyables, et personne ne dit rien. C'est inadmissible. Tout le monde supporte les conséquences de cette politique. Ce sont pas les gens qui doivent payer pour ce genre de choses. De l'argent, il y en a, prenons-le, où il y en a, et ensuite, on verra. D'accord? Mais pour commencer, que ce soit les gens qui gagnent énormément d'argent, commencent à payer.
Alors, on va vous accuser, on vous accuse un peu partout déjà, d'être des privilégiés. C'est les cheminots aujourd'hui, les vrais privilégiés en France?
À la liquide cette retraite, en vérité, pour la chiffrer, pour les jeunes qui viennent de rentrer, on a fait le calcul de leur retraite, ils partiront avec moins de 1000 euros par mois. C'est absolument indécent. Ça veut dire que ces gens-là, dans 25 ans, partiront avec moins de 1000 euros par mois. Qu'est-ce que ça vaudra, 1000 euros par mois, dans moins d'un? Là, la réalité, c'est qu'on essaie d'obliger les gens, justement, à prendre des retraites complémentaires, pour relancer justement un système économique, notamment par le biais de la bourse, pour relancer le système boursier. Et c'est uniquement ça. Sauf qu'on s'en va vers un grave danger, parce que si on contracte des retraites complémentaires et que les gens placent leur argent dans différentes sociétés bancaires ou autres organismes de ce genre, on sera à même aussi de tout perdre, parce que on l'a vu encore récemment, il y a combien de banques qui sont cassées la gueule, qui ont perdu des milliards d'euros. Et ça n'a pas empêché d'ailleurs leur patron de partir avec des parachutes dorés.
Et puis quelque part, moi, ce qui me choque, c'est que les gens, la RATP, la SNCF, c'est les privilégiés, personne ne veut y venir. Y a des postes qui manquent en pagaille. Et puis par contre, des gens qui sont des vrais privilégiés, qui s'augmentent de 140%, qui ont des retraites à 22 annuités et demie à taux plat comme les parlementaires, etc., eux, ça leur semble pas des privilégiés.
Ah, 140%, vous faites référence à l'augmentation de salaire de Nicolas Sarkozy. Mais attendez,
c'est 172, ouais. Moi, j'avais espéré qu'ils s'en étaient tenus à 140. Alors, c'est vrai qu'on vous le dit, c'est pas grand chose par rapport en masse salariale aux autres. Mais moi, je constate que lui, quand il s'aligne, c'est sur le haut. Et nous, quand il nous aligne, c'est sur le bas. Et ça s'appelle de l'injustice.
Ah oui, t'étais trompé. Si tu crois qu'on s'amuse ici, on s'amuse pas. On n'est pas là pour s'amuser.
Vous êtes un peu haineux, monsieur.
Je suis pas haineux, mais alors là, si tu crois qu'on s'amuse, nous, ici, à faire du fric, à être en grève... Non, mais attends.
Si tu t'amuses pas...
Non, je m'amuse pas, je suis pas là à m'amuser, non. Demande à des gens s'ils s'amusent.
Alors, t'as eu un infarctus il y a 3 semaines et tu fumes des clopes, maintenant.
Demande, oui, je me suis mis à fumer il y a 3 jours, monsieur. Oui. Tu veux mon arrêt de maladie avec mon cardio? Bah oui, mon pote, bah oui, t'as raison.
Alors,
on s'amuse, mais
aujourd'hui, on nous dit, la direction de la SNCF dit la grève peut rien apporter, descendre dans la rue, ça sert à rien, la grève, les manifestations, c'est archaïque, ça sert à rien. C'est votre point de vue, ça?
L'expérience a démontré qu'en fait, quand il n'y a pas de rapport de force, il n'y a pas de discussion. Si on est dans la rue, c'est pas pour notre plaisir, hein. Moi j'ai des enfants, je perds à chaque jour de travail, je perds une centaine d'euros, sinon plus. Et puis ça m'amuse pas, comme personne, hein, je pense ici. Mais comment se faire entendre autrement? Il y a des questions comme l'Europe, par exemple, où on nous a demandé notre avis, on a dit non, et ben on va le passer de force. Et ben là, c'est pareil, on passe tout de force, et puis on nous demande pas notre avis. Alors, chacun prend ses responsabilités. Hein. Moi, le plus grand responsable pour moi, c'est le président de la République qui nous représente.
De toute façon, quelle autre solution avons-nous? On nous propose rien de ce côté-là. Et par expérience, on a déjà essayé d'avoir des négociations, notamment à la RATP. Nous avons des mesures que l'on peut prendre avant de déclarer une grève ou autre. Et à chaque fois, ça avorte. C'est la seule chose que malheureusement que nos gouvernants comprennent, c'est ça, la rue, quoi. Même si actuellement, ils se servent largement du système, parce qu'il faut le dire, du système médiatique pour désinformer les gens en général. Voilà. Mais ça fait 25 ans que je suis à... Ça fait 25 ans que je suis à la régie. Vous pouvez dire, vous pouvez être sûr à tout le monde, j'ai jamais eu une seule journée de grève de payer. Même pas une seule journée. Ça n'est jamais arrivé.
Moi, je le dis franchement, hein, on est en France encore, on est en démocratie. Bah, c'est lamentable de monter des gens les uns contre les autres parce qu'on met le doigt dans un système. Peut-être qu'il y aura pire. Et qui c'est qui va les arrêter après quand les gens vont se taper dessus? C'est pas eux, ils resteront dans leur bureau, ils enverront ces gens-là.
Là, vous montrez les CRS.
Les CRS, hein, qui sont aussi des travailleurs, hein, de toute façon. Mais les vrais fomentateurs de tout, ils resteront dans leur bureau, hein, c'est clair. Hein, faut que ça soit clair entre vous et nous, quoi. Donc c'est facile de monter les gens les uns contre les autres, mais les conséquences, qui les assumera? Il sera jugé pour ça s'il y a des troubles. Moi, j'ai une fille qui est en âge, peut-être l'année prochaine, elle est à l'université. Quand je vois qu'on tape des jeunes...
Qu'on
les tape simplement parce qu'ils demandent à discuter, quand on voit qu'à la télé, Madame Pécresse, à chaque fois qu'on veut l'interviewer, elle s'œuvre, moi ça me choque. Hein, quand il y a des émeutes, on les envoie pas. Quand il y a des vrais faits de violence, des bus qui crament, des gens qui risquent leur vie, on leur donne ordre de pas agir. Bon, je sais pas, moi ça me choque.
Maintien, des spéciaux, c'est tous ensemble dans l'unité.
Faut-il encore rappeler que la réforme des régimes spéciaux permettra d'économiser 200 millions d'euros, si toutefois cette réforme prend corps, 200 millions d'euros? Alors bien sûr, bon, c'est pas négligeable, mais pendant ce temps-là, le bouclier fiscal à 50% va permettre à quelques milliers de contribuables les plus aisés d'économiser plus de 300 millions d'euros d'impôts. Faut-il rappeler qu'on demande à certains de se serrer la ceinture alors que le président de la République, c'est connu quand même, ça vous le savez, s'est augmenté lui-même de 206% selon les derniers calculs. Rappelez aussi que Total, qui refuse de faire le moindre geste pour atténuer les effets de la hausse du prix du baril, annonce des bénéfices semestriels de 9 milliards d'euros. Ça marche pas mal pour Total. Faut-il rappeler que le gouvernement a accordé il y a 4 mois à peine aux foyers les plus riches entre 12 et 15 milliards d'euros de cadeaux fiscaux? Et puis aussi, on peut évoquer, et c'est le moment, les retraites, puisqu'on parle de retraites, eh bien les retraites chapeaux de certains grands patrons qui atteignent plusieurs millions d'euros. Et puis le Sénat, qui a repoussé à 2011 d'éventuelles cotisations sociales sur les stock options, exonération qui, au passage, font perdre plus de 3 milliards d'euros de recettes par an à notre cher pays. C'est des précisions qui sont données par Laurent Neumann dans le numéro de Marianne de cette semaine. Alors effectivement, on peut entendre et accorder un certain sens au mot injustice prononcées par ces manifestants. Pour analyser un peu les choses, on va retrouver Daniel Ben Saïd, que vous connaissez, qui est un philosophe, qui est un écrivain, qui est membre de la LCR et qui est enseignant à l'université de Paris 8. Daniel Ben Saïd répond à nos questions sur la lutte, sur le conflit et sur le droit.
Alors, on a pu entendre dire ici et là que encore une grève, encore un conflit social dans une France où on est très habitué, de toute façon, ça ne servira à rien. C'est d'ailleurs ce que dit la direction de la SNCF, cette grève n'apportera rien. Alors, est-ce que c'est votre point de vue? La grève, aujourd'hui, c'est destiné à ne rien apporter, c'est un archaïsme typiquement français?
Alors, est-ce que ça sert à rien? Ben, il suffit de faire un constat, c'est que ce que dit à sa manière, paradoxalement, Sarkozy, c'est qu'il prétend par le train de réforme, ou je dirais plutôt de contre-réforme sociale, qu'il est en train de faire passer au pas de charge, ou qu'il essaie de faire passer au pas de charge, il entend rattraper par là, mettre la France au niveau et à l'unisson de ce que sont les pays voisins. C'est avoué indirectement qu'en France, précisément, la contre-réforme libérale n'est pas allée aussi loin dans la destruction, le démantèlement des acquis sociaux, que ça a été le cas en Italie ou surtout en Angleterre après la grande défaite des mineurs britanniques en 1985-86. Bien, donc c'est, disons, à contrario, l'aveu que les grèves de 95 en France, les manifestations sur les retraites de 2003, la mobilisation victorieuse de la jeunesse contre le contrat première embauche de 2006, ou même le référendum, le non-référendum du traité constitutionnel européen de 2005, ont en France, non pas empêché totalement, mais freiné les réformes et finalement éviter que le rapport de force sociale ne se dégrade autant qu'il l'a été dans d'autres pays. Bon, c'est ce qui fait qu'il y a encore ici du ressort et il faut espérer que le mouvement en cours va encore relancer les dés. L'idée que les formes d'expression du conflit social, que ce soit des grèves ou des manifestations, sont archaïques, est une idée qui, en elle-même, tient pas la mer. Bon, la grève et le droit de grève, c'est un des rares moyens, finalement, qu'aient les salariés, d'abord de défendre leurs intérêts, mais au-delà d'opposer une autre légitimité à celle de la loi. Finalement, c'est un autre droit qui se manifeste à travers ces mouvements-là. Il n'y a pas un droit majuscule, une table de loi, quelque chose qui est descendu du Mont Sinaï, etc. Le droit est une production sociale et est un champ d'affrontement. Il y a des droits. On peut dire pour un patron ou pour un bourgeois, en toute bonne foi, le droit de propriété est un droit. Bon, il est inscrit dans la loi, au terme de bataille, ça n'a pas toujours été le cas. Il a été sanctifié par la première constitution de la Révolution française. Il a été relativisé, on l'oublie trop souvent, par la constitution de l'an 2 de 1793, qui subordonnait le droit de propriété au droit à l'existence. S'il y a urgence sociale, donc, il y a un droit du point de vue des dominants et puis ou des possédants, et puis il y a le droit des possédés. Et ces deux droits sont en permanence en conflit. Et selon les rapports de force, l'un ou l'autre l'emporte différemment ou le dosage entre les deux s'opère différemment. Et finalement, tout ce qui est aujourd'hui inscrit au titre du Code du travail comme des droits sont simplement les acquis de lutte du Front populaire, de la Libération, de 68. Et c'est bien ça qu'il s'agit aujourd'hui de renverser ou d'inverser de la part du gouvernement. Donc c'est finalement près d'un siècle d'acquis imposés, inscrits dans le droit au terme de lutte parce que finalement, bon gré mal gré, ceux qui avaient le pouvoir ne pouvaient pas faire autrement, sauf au risque de perdre encore davantage. Bon, ben c'est ça qui est en jeu aujourd'hui. Donc il y a un autre droit à faire valoir, il y a une autre légitimité, et oui, un rapport de force peut faire que cet autre droit est force de loi, pour reprendre un beau titre d'un livre de Derrida.
Il faut qu'il y ait l'instauration d'un rapport de force pour que la négociation se mette en place. C'est bien la mobilisation des salariés dans une entreprise et des cheminots à la SNCF, et on l'a prouvé par le passé, qui font que les négociations peuvent s'ouvrir sur des bases claires.
Du philosophe au syndicaliste, on laisse un instant Daniel Ben Saïd pour se retrouver à la gare d'Austerlitz le 13 novembre avec Romain Pitelet, secrétaire général du syndicat des cheminots de Paris-Austerlitz.
Alors, l'histoire du droit de grève est une histoire ancienne. Le droit de grève a été introduit à une époque où la vie était très rude, où ne plus être employé, c'était peut-être mourir dans le besoin. Et aujourd'hui, évidemment, on est dans une situation complètement différente. Donc les grèves ont vocation...
Ah voilà, alors on se fait déborder, et on s'est trompé de client. On s'est trompé d'intervenant. Ça, c'est les anti-grèves d'hier à Paris. On revient sur Romain Pitelet, secrétaire général du syndicat des cheminots de Paris, sur la grève.
C'est le vieux discours qui peut déplaire à certains. Est-ce que on est encore dans une société de lutte de classe où les clivages sont clairement prononcés?
Est-ce que dans ce cas-là, finalement, plutôt qu'un échec, la résurgence d'un conflit social serait pas quelque chose de plutôt sain?
Oui, mais évidemment. On parle d'échec quand on commence à aborder le sujet des négociations, mais d'un point de vue sociétal, moi, le fait que des hommes et des femmes cessent le travail collectivement, avec des pertes financières, avec un investissement sur ces journées qui sont pas forcément à la maison tranquillement en train de regarder la télé, hein. C'est quand même une grande réussite dans un monde qu'on dit de plus en plus individualisé, de pouvoir réunir sur un site comme Austerlitz, en différentes assemblées générales, 600, 700, 800 cheminots, c'est quand même quelque chose de significatif et qui crée des liens, entre les générations, entre les métiers. Un conflit, entre guillemets, enfin, par définition, ça paye toujours. Ça paye toujours. Alors, il n'y a peut-être pas forcément le sonnant et trébuchant qui tombe derrière, mais ça montre une capacité des salariés à se mobiliser, à se retrouver ensemble. Parce que c'est ça aussi ce que joue la direction de la SNCF actuellement. C'est de diviser les cheminots. C'est au quotidien. Il ne faut plus que les cheminots discutent entre eux de métier à métier. Et ça, c'est quelque chose de très important.
C'était hier dans Paris, entre la République et la Nation, la manif anti-grève. Et quelques jours auparavant, le mardi 13 novembre, à la gare Saint-Lazare, Renaud Lambert tendait son micro, et oui, le micro de là-bas, si j'y suis, aux militants de l'association Liberté Chérie et contribuables associés.
Alors, l'histoire du droit de grève est une histoire ancienne. Le droit de grève a été introduit à une époque où la vie était très rude, où ne plus être employé, c'était peut-être mourir dans le besoin. Et aujourd'hui, évidemment, on est dans une situation complètement différente. Donc les grèves ont vocation à être utilisées dans des cas extrêmement graves et certainement pas pour défendre des menus avantages. Tout un tas de pays interdisent la grève dans les monopoles publics. Hein. Et c'est le cas de pays aussi respectables que l'Allemagne qui, comment dire, sont des pays respectueux des libertés, évidemment. C'est sûr que dans le domaine concurrentiel, eh bien, ceux qui travaillent dans une entreprise et qui n'en sont pas contents peuvent aller dans une autre entreprise ou au moins proposer leur service. Et donc, nous allons organiser cette année, en réaction à ces grèves, nous organisons donc ce dimanche 18 novembre à 15h une grande manifestation. Le ras-le-bol est déjà là. Les Français, effectivement, en ont assez des grèves, et en particulier des grèves des transports. Il y a 20 fois plus de grèves, 20 fois plus de journées de grève dans les transports SNCF, notamment que dans eh bien, le reste de l'économie.
Vous faites quoi dans la vie, monsieur ?
Je travaille dans l'informatique, consultant en système prévisionnel et décisionnel.
Ah oui, la rue Rocher. Mais...
Non, je ne connais pas bien le quartier. Désolé.
Merci.
Bonjour. Le pouvoir se permet aujourd'hui, en France, dans la situation économique dans laquelle nous sommes, de bloquer le travail, la création de richesses et la création d'emplois. Il a rien entendu de ce que peut lui faire un pipi.
Bonjour, je suis Guillaume Villemette, Liberté Chérie. Je suis responsable des actions, membre du comité de direction. J'ai 19 ans, je suis étudiant à Sciences Po Paris et je travaille également pour un institut, l'Institut Molinari. Alors, historiquement, la grève a souvent été un moyen pour les employés, on pense au Front Populaire, on pense à des périodes comme ça, de combats très durs, d'obtenir des réformes qui étaient à l'époque considérées comme importantes. Et donc je pense que ça a participé à construire la mythologie de la grève comme moyen optimal pour obtenir des réformes profondes et des avantages salariaux ou autres importants. Et il y a un renversement. Avant, la grève se faisait pour quelque chose, pour une réforme, pour une durée de temps de travail réduite, pour des salaires plus importants. Et aujourd'hui, c'est une grève systématiquement contre quelque chose. Donc ça, historiquement, je crois que c'est un basculement important qui coïncide avec le basculement du débat public. Le débat public en France est très décalé par rapport à beaucoup de débats publics, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou ailleurs dans le monde entier, où la tendance est plutôt à plus de liberté et moins d'État. Et la France est un petit peu à rebrousse-poil de cette tendance. Donc c'est assez étonnant. Et la critique du capitalisme qui est très prégnante à la fois dans les mouvements de gauche mais aussi de droite, à la base le gaullisme n'est pas libéral et toute la gauche est presque anti-libérale à une petite partie près. Et donc c'est assez assez étonnant et c'est une particularité française effectivement. Je pense que la réforme intellectuelle, culturelle qui est nécessaire se fera. Elle s'est faite en Grande-Bretagne par exemple et par un travail d'idées, etc. Progressivement, ces idées ont été réhabilitées et donc je pense que l'opinion peut changer. C'est un travail très long, souterrain, invisible, qui n'est pas vraiment spectaculaire, mais qui doit se faire et qui se fait, je crois, aujourd'hui. Les hommes politiques, forcés par la nécessité de la situation, ont proposé des réformes où on a vu que les modèles sociaux devaient être réformés. Et depuis 81, je pense que la grève est devenue un moyen systématique de s'opposer aux réformes et de bloquer le pays. Les grèves aujourd'hui s'accélèrent. Le nombre de journées de grève par année est bien plus grand aujourd'hui qu'il ne l'était il y a plusieurs décennies. Et c'est dû, je pense, au fait un essoufflement d'un mouvement qui se radicalise au même moment qu'il perd ses adhérents. C'est presque le vaillant amiral qui meurt sur son bateau tout seul en étant fier de ce qu'il est.
Les privilèges! Ah, va! Les privilèges!
privilèges. Les privilèges. Les privilèges.
Et vous l'avez compris, les privilèges dont il était question hier dans cette manifestation sont bien sûr les privilèges des cheminots qui sont, comme chacun sait, d'odieux privilégiés, comme ceux qui manifesteront évidemment demain. On revient à Daniel Ben Saïd sur la notion qui vient nous être exposée par ce jeune homme, 19 ans, Sciences Po, de l'Institut Molinari, connu pour ses opinions et sa militance ultra libérale. Eh bien alors, puisqu'il s'agit de lutter, luttons. Daniel Ben Saïd.
Des régimes spéciaux, au-delà de la remise en cause de ce qu'on appelle un privilège. Quel est selon vous l'objectif profond de l'attaque de ce qui constitue encore un bastion de protection ?
Bon, d'abord, le maniement, c'est une véritable campagne d'opinion. Hein, du terme de privilège est tout à fait choquant, parce que on peut regarder les choses à l'envers. Ce qu'on peut considérer comme privilège peut être aussi considéré comme des avancées pionnières et plutôt à généraliser qu'à éliminer. Or, évidemment, il y a une stratégie, mais qui est conforme au discours de la campagne électorale du candidat Sarkozy à l'époque, qui a été systématiquement de chercher à opposer les méritants qui se lèvent tôt, aux paresseux qui se prélassent sur le mol oreiller de la Sistana, les étudiants studieux qui veulent à tout prix aller en cours contre les cigales qui ne pensent qu'à se distraire et à manifester, etc. Donc, bon, c'est une stratégie de division systématique, d'opposition systématique. Alors, évidemment, commencer par les régimes spéciaux on le voit dans les sondages, mais ça peut bouger, hein. L'opinion est versatile, mais le fait est que la campagne a marqué des points et que d'un État où déjà la destruction des solidarités passée à la moulinette ces dernières années a quand même instauré un climat de chacun pour soi et sauf qui peut. Donc dans ce contexte-là, le biais des régimes spéciaux est effectivement la bonne entrée pour le gouvernement, mais au-delà des régimes spéciaux, ce qui est en jeu en réalité, c'est le rallongement de durée des cotisations pour tous et le retard de l'âge d'accès à la retraite de plein droit pour tout le monde. Bon, il y a effectivement un bras de fer, et selon l'issue qui lui sera donnée, évidemment, ça conditionne ensuite les possibilités de résistance, ou au contraire, de voir les réformes s'ajouter aux réformes, et le quinquennat Sarkozy, de parvenir effectivement à mettre fin à qu'avaient réussi à obtenir les mouvements sociaux depuis une douzaine d'années en tenant tête à la réforme libérale.
Alors ça, cette description de la société va quand même à l'encontre de ce qu'on entend aujourd'hui, où l'entreprise, par exemple, n'est plus un lieu de confrontation entre les salariés et le patron, mais une grande famille. Et vous nous dites qu'au bout du compte, on n'a pas tous les mêmes intérêts.
Non, l'opposition, l'antagonisme social a pas disparu. Le discours sur le consensus est une construction. Bon, on peut parler de, voilà, pour le coup, de propagande des dominants. Et c'est un discours qui se développe depuis au moins une vingtaine d'années, depuis la fin des années 70, l'idée qu'il y a une société civile pacifiée, que tout le monde, et il a son versant social. La communauté de l'entreprise, il a son versant politique, plus de droite, plus de gauche, un centre droit ou un centre gauche, des variantes ou des nuances au centre. Et la condition de ce discours, c'est évidemment la dénégation de la lutte des classes. Il faut appeler un chat un chat. Alors, est-ce que la lutte des classes a disparu ? Bon, on peut faire les études sociologiques savantes. Bon, mais ce qui me frappe, moi, c'est qu'on se demande si la classe ouvrière existe toujours, ou les travailleurs, ou les salariés. Bon, statistiquement, oui, c'est vrai, la classe ouvrière industrielle a reculé, ou sa part a reculé dans la population active, mais enfin, elle a reculé, elle n'a pas disparu, de 33-35% à 25%, mais 25%, c'est encore un quart de la population active, je parle de la classe ouvrière industrielle. le salariat exploité, si on compte que les employés de grands magasins, les employés de la santé publique, c'est les deux tiers de la population active aujourd'hui, hein. Mais on se pose pas le problème à contrario, savoir, on se demande pas si la bourgeoisie existe. La preuve de la lutte des classes, c'est d'abord le parachute doré de Monsieur Forgeard, ou la distribution des intérêts aux actionnaires par année. À moins de croire que l'économie capitaliste, c'est en permanence le miracle de la multiplication des pains, on voit pas comment, avec une croissance de 2% ou moins, on peut distribuer 15% de retour sur intérêt par année. On sait que ce qui passe dans la poche des uns vient de la poche des autres, il n'y a pas de mystère à ça. Donc la lutte des classes, elle existe au quotidien, pas toujours sous des formes spectaculaires, mais contre une fermeture d'entreprise, contre un licenciement, contre la volonté patronale de rogner les lettres de harcèlement, les suicides qu'il y a eu récemment dans l'automobile, où on mégote sur la pause pipi, sur la pause café, sur le temps d'une consultation médicale. C'est la lutte de classe au sens le plus quotidien, le plus trivial, et les rapports de force se jouent, y compris dans ces micro-résistances-là. Non seulement le conflit est quelque chose de sain, mais la démocratie marche au conflit, ne peut marcher qu'au conflit. Qu'est-ce que serait une démocratie sans conflit ? Une unanimité de quoi ? C'est un pur escamotage, justement, du rapport conflictuel entre des intérêts, des positions sociales, qui est le fondement aussi de la pluralité politique. Le pluralisme n'existe pas par goût, c'est pas une question de goût esthétique, de couleur ou d'oreille. C'est que cette pluralité du champ politique, elle est l'expression de la diversité des intérêts. Et là où il y a diversité des intérêts, il n'y a pas d'harmonie naturelle préétablie, il n'y a pas non plus de communion religieuse, donc il y a conflit, et c'est le conflit qui fait la vitalité de la vie démocratique.
Voilà, vivre c'est lutter, et lutter c'est vivre. Le Victor Hugo explicité par Daniel Ben Saïd. Et du côté des médias, ça évidemment c'est la grande affaire dans ce genre de moment, les médias mentent, vous mentez, vous dites pas la vérité, etc., que ce soit dans la manif d'hier à Paris des anti-grévistes que du côté des grévistes. Faut bien dire que quand, du côté des grévistes, il est bien rare qu'on insulte la Basse-Suisse, mais on voit des confrères assez souvent pris à partie et mis en cause. Alors, tournons-nous vers Acrimed. Vous connaissez le site Acrimed qui, depuis des années et des années, plus de 10 ans, s'occupe, s'échine à observer la scène des médias. Voilà ce que pense et ce que dit Mathias Raymond, co-auteur avec Henri Mahler de Médias et mobilisation sociale aux éditions Sileps. Mathias Raymond.
On voit bien que la question sociale n'est abordée qu'au moment des mobilisations sociales. C'est par ces manifestations qu'on parle du social. Sinon, quotidiennement, dans les informations, on ne traite pas des accidents du travail, par exemple. On ne traite pas de la précarité de l'emploi. Il y a tous les jours, à toutes les heures, sur toutes les radios, le cours de la bourse qui est annoncé. Mais pas le nombre de chômeurs, le nombre de morts dans les accidents du travail. D'accord ? Donc, c'est aussi... Le rôle des médias ici est aussi d'encadrer idéologiquement tous les débats. Le temps de parole attribué aux représentants de l'ordre dominant, de l'ordre libéral, est beaucoup plus élevé que celui qui est attribué aux ouvriers, aux syndicalistes, aux précaires, etc.
Il existe des calculs de ce type-là qui montrent le temps alloué sur les médias dans leur ensemble aux classes sociales supérieures et aux classes sociales plus basses.
Oui, alors il y a une étude qui avait été faite par Sébastien Rouquette dans un livre qui s'appelle L'impopulaire télévision populaire. En fait, il a étudié près de 400 débats télévisés qui diffusés sur une quarantaine d'années en France. Et là, c'est assez flagrant puisque Par exemple, sur l'année 89-90, les plateaux de débat télévisés ne comptaient que 10% d'ouvriers et d'employés, alors que ces populations occupaient 60% de la population française. Ces émissions comptaient environ 50% d'invités appartenant au cadre ou aux professions intellectuelles supérieures, alors que la population en France de ces gens-là était de 10%. Donc il y avait une discrimination déjà à l'entrée dans ces émissions.
À partir de ces chiffres, on peut faire l'hypothèse que, même sans volonté de prosélytisme politique, ce simple biais social va colorer politiquement les propos tenus dans ces émissions.
Et bien évidemment, puisque les gens sont là pour expertiser, donc donner leur avis sur la société, mais aussi pour témoigner de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils sont. Bien évidemment, s'il y a 3 fois plus ou 4 fois plus ou 5 fois plus de cadres qui s'expriment que d'ouvriers, on a un biais politique qui est assez, assez clair.
Une entreprise n'est riche que parce que le salarié travaille bien et fait en sorte qu'elle soit riche. Qu'est-ce qui fait la richesse d'une entreprise? Ce sont bien les gens qui travaillent pour elle et non pas l'inverse. Jusqu'à preuve du contraire, un patron tout seul, il n'a jamais fait fructifier une entreprise avec 50 machines dans son atelier. C'est parce que les gens travaillent bien. Pourquoi dans notre pays, depuis 20 ans, on ne peut pas reconnaître la qualité du travail des Français? Mais d'où ça sort, ça?
Aujourd'hui dans la rue, demain on continue. Aujourd'hui dans la rue, demain on continue. Aujourd'hui dans la rue, demain on continue. Aujourd'hui dans la rue, et demain on continue. Aujourd'hui dans la rue, demain on continue. Aujourd'hui dans la rue, demain on continue.
Voilà, merci à tous. C'était un reportage de Renaud Lambert. Merci à Romain Pitelet, à Daniel Ben Saïd, Charles Jacquier et Mathias Raymond. À lire ou à retrouver le numéro 33 de la revue Agone, Le syndicalisme et ses armes. C'était en 2005 aux éditions Agone. Et puis le bouquin de Henri Mahler et Raymond Mathias, Médias et mobilisation sociale, La morgue et le mépris, aux éditions Sileps. Et puis dans Politis cette semaine, l'Observatoire du 6 mai. Il existe un observatoire du 6 mai, eh oui. Dresse un premier bilan de la présidence de Sarkozy avec des analyses de Pierre Tartakovsky, Jacques Testard, Didier Ménard, etc. Donc, dans Politis cette semaine, toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission ainsi que sur là-bas.org, là-bas.org, le site non officiel de là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Philippe Duclos et Sandrine Laurent. C'est Yan Chou Kaiko Yen Guyen qui ont réalisé cette émission modeste et géniale, assistée de Charlotte Perry, qui s'occupe aussi ces jours-ci du répondeur de la basse si j'y suis, qui attend vos messages au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Et puis il y a toujours le mail de l'émission daniel.mermet@radiofrance.com.